Voici des ailes, chapitre 10. Le lendemain et le surlendemain, ils ne parlèrent point de tout cela. Ils s'abandonnaient, comme des convalescents, aux soins de la nature et aux bienfaits des heures qui passent. Leurs paroles et leurs gestes étaient imprégnés de douceur. Les émotions les plus simples les troublaient jusqu'au plus profond de l'âme. Ils avaient pénétré dans une région moins âpre et moins fatigante, où jaillissent, comme des volcans figés en pleine éruption, fougères et vitrées, cités de rêves et de cauchemars, chaos informes et splendides de murailles séculaires, de donjons farouches, de tourelles, d'églises, de falaises, de jardins en terrasse. C'est en allant de l'une à l'autre que Pascal rompit enfin le silence dont ils entouraient leurs blessures, et ils furent tout étonnés de l'avoir guéri. « Madeleine, vous ne m'en voulez pas ?»«
Je ne me souviens même pas de vous en avoir voulu, Pascal. » »«
Moi aussi, j'oublie mes torts en même temps que j'oublie la cause de ma souffrance. » Il s'interrompit. « Est-ce bien moi, d'ailleurs, qui souffrais ?»«
Non, c'est le vieil homme qui restait en moi. On le torturait dans sa vanité de mal. On lui prenait sa femme, c'est-à-dire sa chose, son bien. » Et il criait, le malheureux. J'avais honte de ma bêtise et de mon injustice, et de mon crime envers vous. Mais lui perdait la tête et se tordait de rage. Oh, mon ami aimé, c'est vous qui l'avez tué l'autre jour, d'un simple geste. Il me semble que j'étais aveugle, et que votre beauté m'a ouvert les yeux très grands, pour voir la beauté de votre chair. Et c'est comme si j'avais vu à la fois tout ce qui est beau et noble dans le monde. Dès lors, j'étais sauvée.
« Il me faut donc vous aimer encore plus, » dit-elle en souriant, « puisque je vous ai fait du bien. » Ils s'aimèrent davantage. Ils s'aimèrent avec reconnaissance, avec l'attendrissement de ceux qui ont pleuré l'un auprès de l'autre. Ils allaient à travers le pays comme deux compagnons que rien ne pourrait plus séparer. Et à chaque métamorphose du décor environnant, ils s'imaginaient que quelque chose s'ajoutait à eux. Pascal s'écriait « Comme je comprends le bienfait de cette vie et le progrès de son action sur nous. Elle a d'abord brisé une à une toutes les chaînes qui nous embarrassaient et réduit en poussière les mensonges de notre passé. À chaque tournant de route, nous laissions un peu de nous. Cela se détachait à moitié, traînait un instant dans notre sillage, et puis tombait comme une loque inutile. Le dernier lambeau, celui qui tenait le plus à mon sang et à ma chair, vous m'en avez délivré l'autre jour, Madeleine. Et maintenant, dans le grand espace vide et purifié qui s'ouvre en nous, affluent des choses nouvelles et claires, de la bonté, de la grâce, de l'indulgence, de la sérénité et de l'amour, Madeleine. De l'amour surtout. » Il marchait sous les arceaux d'une vieille église en ruine. Il lui dit lentement, les mains sur ses épaules, « Je vous promets que je ne souffre plus. Je vous promets que je suis parfaitement heureux. Cela m'est égal que Régine soit la maîtresse de Guillaume. J'ai d'abord été pris au dépourvu et j'ai souffert dans ma vanité d'homme, dans mes préjugés, dans ce que j'ai de plus étroit et de plus mesquin. Et cependant, il fallait que déjà je fusse bien meilleur et bien régénéré, puisque ma souffrance ne m'a conduit à aucun acte. Je n'ai pas cessé de savoir que je traversais une crise, d'où je sortirais maître de moi. J'en suis sorti. Je n'ai plus de rancune. À peine un peu de tristesse à lui découvrir des instincts équivoques et des allures trop légères. » Mais il s'écria, « Après tout, elle a raison. Si son instinct d'amour est de se livrer complaisamment aux caresses de celui qui la désire, elle a raison de s'y livrer. Si son instinct de femme ne se contente pas des hommages d'un seul homme, elle a raison de se montrer à moitié nue aux vagabonds des chemins. Qu'elle soit ce qu'elle est, comme je suis, moi, ce que je suis. C'est notre droit à tous deux. » Ils eurent de ces heures où l'on aime la vie comme un bien inappréciable. La joie de leurs muscles invincibles les exaltait.
la volupté de conquérir indéfiniment la nature leur donnait la sensation d'une royauté sans bornes. Elle s'abandonnait à eux comme une maîtresse. À l'ombre des forêts, à la lumière des plaines, à l'aurore, au crépuscule, à la nuit, c'était d'ardentes et continuelles noces. Ils l'absorbaient comme un breuvage délicieux. Ils se l'assimilaient comme une substance salutaire. Par leur ouïe, par leurs narines, par leurs yeux, par leur peau, par tous leurs sens exaspérés, ils jouissaient de la défaillante amoureuse. Les champs paisibles, les senteurs des herbes mouillées, les rouges couchés du soleil, les blancs clairs de lune, tout cela ne s'aspire-t-il pas en une gorgée d'air? Oh, l'incomparable jouissance! Et le flot du désir aussi jaillit en eux, dans la délivrance de tous leurs instincts et dans l'invasion des forces naturelles. Ils désirèrent parce qu'ils étaient jeunes et vrais, parce que la vie des choses, des bêtes et des plantes est un épanouissement perpétuel du désir. Pascal se souvenait de la splendeur de Madeleine, et ses yeux évoquaient la vision blanche et harmonieuse, et ses mains se courbaient avidement selon les formes adorables. Et il semblait à Madeleine que nul vêtement ne pouvait plus s'opposer aux mains et aux yeux de Pascal. Elle était nue, et il la regardait, et il la caressait. Ils aimaient le péril des doigts enlacés, des bouches profondes, des haleines qui se confondent, des corps qui se cherchent et qui s'aguichent sous la garde éperdue des volontés. Ils aimaient la douceur âcre de la jalousie. Pascal murmurait en tremblant « Non, je n'ai pas oublié les baisers de Guillaume sur les bras et les épaules de Régine. Non, je n'ai pas pardonné le jeu de ses mains sur son dos. Et j'en souffre, vous entendez, Madeleine, j'en souffre, parce que je me représente le passé, les heures d'intimité où il vous câlinait de la sorte, lui, avec les mêmes mains, avec les mêmes lèvres, et que vous vous abandonniez comme Régine, heureuse comme elle, j'en suis sûre, frissonnante comme elle. » En vain, Madeleine protestait. Il ne la laissait pas achever. « Taisez-vous, taisez-vous, ne pensez pas à cela. » Comment y aurait-elle pensé? Dans l'éveil de ses sens et dans l'élan de toute sa chair vers les fortes caresses, comment se fût-elle même rappelé ses malentendus avec Guillaume? La présence de Pascal la troublait sans qu'elle pût s'en cacher. S'étant promise à lui, elle tressaillait au moindre de ses gestes, anxieuse à la fois et prête à l'accueillir. Et Pascal dut s'enfuir souvent, tellement il devinait son attente, sa prière éplorée et silencieuse. L'heure approchait. Ils en avaient l'intuition affolante. Ils seraient l'un à l'autre. Où, quand, ils ne savaient pas. Mais, en vérité, ils ne doutaient point que l'heure approchât. Et ils allaient en toute hâte, comme s'ils eussent espéré que cette allure les conduirait plus vite au bonheur. Le désir multipliait leur énergie. Ils étaient indomptables. Et il accroissait aussi leur puissance d'émotion jusqu'à l'extase, jusqu'à les rendre incapables de séparer les unes des autres leurs sensations. « Il n'y a plus rien en moi que de la vie !» s'écriait Pascal. « De la vie qui fermente, de la vie qui bouillonne comme de l'eau. Je me sens dans la vie qui m'entoure comme un bloc de vie qui passe, plus intense et plus vibrant. Tout se rapporte à cela. » Le bruit égal de la chaîne, c'est le bruit d'un cœur qui bat, et le bruit discret des roues sur le sol, c'est le bruit du sang dans les veines. Pour mieux s'unir, ils se plaisaient à rouler côte à côte. Le bras de chacun appuyait l'épaule de l'autre, et la main presque autour de son cou. Il leur semblait alors respirer de la même poitrine et vivre d'une seule vie. Et il leur semblait aussi porter leur grand amour comme sur un socle triomphal. Une fin d'après-midi, ils traversèrent tous quatre les rues de Rennes. Jugeant la ville d'un intérêt médiocre, ils choisirent, au-delà, une auberge que recommandait son jardin spacieux. Le repas s'effectua suivant une sorte de règle qui tendait à s'accentuer depuis quelques jours. On y mangea rapidement et on y parla guère. Ils agissaient comme deux couples étrangers. et cela s'était établi de façon si progressive qu'il n'en apercevait point la bizarrerie. Le soir, on se coucha tôt. Or, au bout d'une heure, dans le silence de l'hôtel endormi, Guillaume se glissa le long des murs du corridor où vacillait la lueur d'une lanterne. Par sa porte entrebâillée, Pascal le vit s'arrêter à l'extrémité du couloir. Une porte s'ouvrit, c'était celle de Régine. Il se rua comme un fou, mais au passage, une main le saisit. Des mots haletants furent échangés. Tout à coup, à son insu, il se trouva dans la chambre de Madeleine. Elle lui dit sévèrement « Voilà bien des soirées que je veille ainsi. J'étais si sûre que vous les espionniez. » « Il est auprès d'elle, » balbutia-t-il. « Elle est sa maîtresse. »« Eh bien quoi ?» demanda Madeleine. Il hésita un moment. L'incohérence de ses gestes et de ses regards trahissait un combat suprême. Elle vit ses poings crispés, les veines gonflées de ses tempes et des fibres de sang qui rayaient ses yeux. Qu'allait-il dire ? Qu'allait-il faire ? Elle s'assit, épuisée par son effort. D'ailleurs, elle était lasse de lutter. Plutôt que de le devoir encore à des prières, à des larmes ou à des menaces, elle préférait le perdre. Il fallait qu'il triomphât seul, par la toute-puissance de son amour et l'affranchissement de ses bons instincts. Ils restèrent longtemps immobiles, et plus les minutes s'accumulaient, plus Madeleine se rassurait sur le dénouement. Elle les compta, ces minutes, seconde par seconde, avec la volonté tenace qu'il s'en ajoutât d'autres, beaucoup d'autres, où Pascal demeurerait de la sorte, impassible, de plus en plus indifférent à ce qui se passait en dehors d'elle et de lui. Toute son énergie d'amoureuse se réduisait à ce vœu d'immobilité et d'attente. Mais soudain, elle fut prise, emportée vers le lit comme une proie, et Pascal la serrait contre sa poitrine, l'étreignait à la briser et murmurait ardemment « Madeleine, Madeleine, sois à moi, pourquoi tarder davantage ? C'est de la folie, puisque je t'aime et que tu m'aimes. » Elle se débattait. Sous l'assaut furieux des baisers qui heurtaient ses joues et son menton, elle ne songeait qu'à dérober ses lèvres aux lèvres avides. Il se désespéra. « Madeleine, tu t'es promise, rappelle-toi. Je serai tienne quand l'heure sera venue. L'heure est venue, Madeleine. » Son souffle, son désir, la brûlait. Elle se sentit sans force contre lui. Vaincue, elle lui dit simplement « Fais de moi ce que tu veux, Pascal. Mais j'avais rêvé autre chose. Ça n'est pas digne de nous. » Il la rejeta brusquement, fit quelques pas au hasard, puis courut à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. La nuit entra. Assis au rebord et ployé en deux, il ne bougeait pas, la tête entre ses mains. Elle vint auprès de lui. « Ne m'en veux pas, Pascal. Toi-même, tu aurais regretté cela mortellement. C'eût été de la vengeance plutôt que de l'amour. Et puis, si, comme eux, furtivement, non, ce n'est pas ainsi que nous devons être l'un à l'autre. » Un sanglot le secoua. « Pourquoi pleures-tu, mon Pascal ? Je pleure parce que tu es bonne et que tu n'as pas de colère. Me pardonneras-tu cette fois ? « Il n'y a pas de pardon entre nous, Pascal. Nous marchons à travers tant d'obstacles. Il est naturel que nous fassions des faux pas. » « C'est le dernier, Madeleine. » « Oui, j'en suis sûre. C'est la dernière révolte du vieil homme. Tu le croyais mort. Il agonisait seulement. » Ils se turent. La lune baignait l'espace. Les arbres trempaient dans sa lumière bleue. Leurs rêves montèrent vers elle, source de toute poésie et de toute pureté. Elle les rafraîchit, elle les bénit. Madeleine prononça « Notre vie va se dénouer, Pascal, et selon notre désir, j'en ai le pressentiment délicieux. Je vais être à vous bientôt. Comment nous viendra cette joie, je ne sais pas, mais nul mensonge ne la flétrira, nulle lâcheté ne l'amoindrira. « Oh, je suis heureuse !» Il murmura, tout ému, « Vous êtes ma fiancée, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis votre fiancée, Pascal, votre fiancée de cœur et de chair. Voici ma main, mon aimé. Voici ma bouche. Chapitre 11. Rennes marquait leur entrée en Bretagne. Ils suivirent d'abord la route de Brest, sans trop savoir les villes et les chemins que choisiraient leurs caprices. Peu soucieux des conciliabules qui servaient jusqu'ici à l'élaboration de leurs plans, ils s'en remettaient au hasard. Tout au plus, Guillaume et Régine avaient-ils parlé des côtes bretonnes, ce qui ne plaisait pas beaucoup aux deux autres. La longue avenue de peupliers où se retrouvèrent Pascal et Madeleine après les belles heures de la nuit leur parut l'issue merveilleuse par où ils sortaient d'un rêve magnifique pour atteindre à une réalité plus belle encore. Ils pénétraient dans un pays auquel leur imagination voulut attribuer un aspect différent. Les prairies avaient des airs de parc anglais, des arbres les encadraient, et pour peu qu'on s'élevât, tous ces ramages dominés formaient une grande forêt, un vêtement de verdure aux vers innombrables qui couvrait la terre à l'infini. La nature les accueillit comme une amie charmante, sous ses ornements de rosée et de soleil. Ils se souriaient de temps à autre, et ce sourire les imprégnait si profondément qu'ils voyaient les arbres et les plaines et qu'ils regardaient leurs pensées à travers la grâce d'un sourire. Quelle paix descendait sur eux, quelle certitude, quelle espérance grave et durable. « Madeleine, murmura-t-il. Que voulez-vous, Pascal ? Je ne sais pas. Je prononce votre nom comme au premier jour pour la joie de le prononcer. » Elle dit, après un silence, « Il y a des fois, Pascal, comme en ce moment, où j'ai conscience de votre amour autant que du mien. » « Comme c'est bon, Madeleine, que vous me disiez de telles choses, et au bout de si peu de temps. Oh, comme cela est arrivé vite! Quelques semaines à peine !» Ils se reposèrent sur le tronc d'un vieil arbre. Pascal tenait sa bicyclette entre ses jambes. Madeleine s'amusa de le voir. Il n'y touchait plus comme naguère avec des gestes de sportsman. Il ne la regardait plus avec des regards d'amateur qui apprécie la résistance, qui juge la conception, les formes, les détails. C'était d'autres gestes et d'autres regards, doux, affectueux, imprégnés de respect et de gratitude. Il devina la pensée de Madeleine et lui dit en confidence « Ce n'est plus une chose, Madeleine, ce n'est plus une petite bête d'acier, non, écoutez, c'est une amie !» Il parlait en toute gravité. C'est la nouvelle amie que le destin vient d'accorder à l'homme. Elle est faite de ses fers brisés, et c'est une alliée fidèle et puissante dont il peut user contre ses pires ennemis. Elle est plus forte que la tristesse, plus forte que l'ennui. Elle est forte comme l'espérance. Elle réduit les soucis à leur valeur. Elle nous éloigne du passé. Elle nous apprend à vivre dans le présent et à marcher vers l'avenir. C'est la grande délivreuse. » Il la caressa lentement et il murmurait « Petite amie, chère petite amie, quand je songe à mes années perdues, à mes années de sommeil, de torpeur, de gêne, d'hypocrisie, elle m'a sortie de ces ténèbres pour me conduire à la vérité. Elle a ouvert les portes de ma prison. Elle a ouvert mes yeux et mes oreilles. Je ne savais pas, et je sais. Je ne sentais pas, et je sens. Peut-être cela se fût-il produit sans elle. Peut-être n'a-t-elle été qu'une cause fortuite. Elle n'en est pas moins l'amie à qui je dois la vie et la conscience. » Nous lui devons surtout de nous aimer, prononça Madeleine. Ils repartirent et Pascal ajouta. Oui, nous lui devons l'amour, et elle nous l'a donné d'un coup, foudroyant et définitif. Oui, les choses se sont déroulées en toute hâte. Mais c'est qu'elle nous a emportés dans sa course vertigineuse. C'est que nos âmes, comme nos corps, ont volé sur les grandes routes blanches, dans la pureté de l'espace. Nous n'avons fait que la suivre. Nos sentiments, nos émotions ont pris sa spontanéité. On dirait même que les événements se sont rués sur nous comme elles se précipitent, elles, à travers les paysages et les horizons. Et je vous aime déjà, Madeleine, avec tout un passé d'amour en moi. Ils continuèrent à rouler dans un silence ineffable. Ils conservaient le goût des paroles échangées, comme on se souvient d'un fruit savoureux. Chacun regardait en soi l'image de l'autre, l'interrogeait sur sa tendresse et lui offrait des paroles passionnées. « Oh, le silence !» murmura Pascal. « Jamais elle ne le rompt. Elle reste toujours silencieuse, et par là, elle nous permet le silence. D'ordinaire, tout mouvement s'accompagne de bruit, toute vitesse est un fracas, et que ce soit le grondement du train, le galop du cheval, la cadence de la marche, c'est du bruit qui agace et qui distrait. Elle est muette, elle. Elle va dans le silence, elle est l'amie du silence, et ainsi elle garde quelque chose de mystérieux, dont nous nous sentons à notre tour imprégnés. Avancer avec elle, c'est entrer perpétuellement dans du mystère. » Mais à l'angle d'un carrefour, ils aperçurent Guillaume et Régine qui les attendaient. Ils descendirent. Deux routes se détachent, une à droite, l'autre à gauche. Et sur celle de droite, un poteau indique, avec des chiffres de distance, Dinan, Saint-Malo. Tandis que celle de gauche conduit vers le centre de la Bretagne, vers Ploërmel, vers Josselin. Guillaume demande « Eh bien, il est entendu que nous allons du côté de la mer, n'est-ce pas ?»«
Entendu, entendu !» répliqua Pascal. « Pour mon compte, je préférerais de beaucoup m'enfoncer dans les terres. C'est par là qu'on trouve la forêt de Brocéliande, et le manoir de Campé, et le fameux château de Josselin. Et puis un tas de villes curieuses, Rochefort, Malestroit, enfin toute la Bretagne inconnue des landes et des ruines.
« Moi, c'est absolument mon avis, » déclara Madeleine. Mais Régine s'emporta. « Ah, vrai, ce n'est pas le mien. Je commence à en avoir assez de votre pittoresque et de votre solitude. J'ai encore envie de voir un peu de monde. » Il y a par là des plages amusantes, Dinard, Paramé, c'est plus drôle. Après, on suivrait la côte tout du long, n'est-ce pas, Guillaume? Vous m'avez parlé d'un tas de bains de mer, Binic, Portrieux, Trégastel, Brignogan, que sais-je.
Dans ce costume, ricana Pascal, nous aurons du succès.
Quoi, on fera venir ses mâles. D'ailleurs, nous pouvons bien nous installer quelque part une semaine ou deux. « J'avoue que je suis un peu lasse d'avaler de la poussière et de rôtir au soleil. » L'intonation des voix devenait assez aigre. Ils s'observaient tous quatre avec une certaine irritation. « Oh !» soupira Madeleine. « Revoir des gens, faire de la toilette, non, c'est trop ennuyeux. Quel plaisir peux-tu bien éprouver à cela, Régine ?»«
Bah, c'est aussi drôle que les grands discours de Pascal et vos pâmoisons devant le moindre coucher de soleil. Ce que vous me faites rire, tous les deux !»«
Tu n'es capable que de rire, toi, Régine !» lança Madeleine. Guillaume, qui se tenait à l'écart, s'approcha de Madeleine et lui dit d'un ton impérieux. « Il ne s'agit pas de tout cela. Je m'en vais. Viens !» Elle se révolta.
« Tu es fou ? Des ordres maintenant, et tu t'imagines ?»
Il eut un geste de colère et fit un pas vers elle, mais il se trouva face à face avec Pascal. Une seconde, les deux hommes se défièrent du regard, dressés l'un devant l'autre comme deux ennemis. Ils étaient très pâles. Les femmes se taisaient, anxieuses. Puis Guillaume éclata de rire.
« En vérité, c'est trop bête de se quereller. Nous sommes libres d'aller où nous voulons. »
« Moi, je préfère aller par là. J'y vais. Venez-vous, Régine ? Ils se décideront bien tout seuls. » Sans un mot de plus, il aida Régine à se remettre en selle. Un instant après, il s'éloignait.
« Guillaume ! Guillaume ! »
cria Madeleine d'une voix suppliante. Elle s'efforçait de courir, les mains tendues en un élan de détresse et d'effroi. Il ne se retourna point. Alors elle tomba sur le talus. Un long silence s'ensuivit. Les autres étaient loin déjà. Immobiles, ils les voyaient diminuer, diminuer comme des choses qui vont s'évanouir, se confondre avec l'horizon.
Cela ressemblait à des oiseaux dont on suit le vol dans le ciel, des oiseaux qui fuient vers des asiles qu'ils n'ont pas l'air de connaître. Quand ils eurent disparu, Pascal vint s'agenouiller auprès de Madeleine et ils se regardèrent en tremblant. Il devina que son cœur battait à tout rompre et qu'elle redoutait les paroles imminentes. Ils étaient craintifs, tous deux, intimidés comme s'ils se trouvaient ensemble pour la première fois en quelque solitude insondable. Et il lui dit d'un ton si bas qu'elle entendit à peine « Allons-nous-en, allons-nous-en !» Elle frémit, ses yeux palpitèrent, il répéta plus haut, le doigt pointé vers la route de Bretagne. « Allons-nous-en, Madeleine, allons-nous-en par là !» Elle se jeta dans ses bras, avide de protection. Elle avait peur de ce qu'il venait de dire, peur de lui et d'elle-même, et elle murmurait « Tais-toi, mon chéri !» Il continua, la voix berceuse. « Allons-nous-en, Madeleine, nous sommes libres de nous en aller, c'est eux qui l'ont voulu ainsi. C'est eux, et c'est la vie clairvoyante qui nous a révélés l'un à l'autre. Elle nous a dit que nous étions tous pareils, faits de la même matière et de la même âme. Allons-nous-en. Le destin remet les choses à leur place puisqu'ils sont partis, eux qui se sont reconnus et qu'ils nous ont laissés, toi et moi. Serons-nous moins braves qu'ils ne le sont ?»« Oh ! » fit-elle, « ils croient que nous allons les rejoindre. » »« Qu'en sais-tu ? Et puis, qu'importe, je ne le pourrai plus. Il est impossible que cette existence d'hypocrisie se prolonge. Cela nous avilirait, maintenant que nous savons. » « Voyons, Madeleine, ce voyage finira, et tu admets qu'ensuite je me retrouve avec Régime et toi avec Guillaume ?»« Oh non » balbutia-t-elle. « Alors, allons-nous-en, ma chérie, c'est notre devoir. Je ne l'aurais pas demandé avant d'être sûre de moi, et j'en suis sûre depuis cette nuit. En vérité, Madeleine, je n'ai pas souffert, et je ne souffre pas. Je suis heureux même qu'elle soit à lui. » Oh, mon aimé, je me donne à toi parce que je suis libre et je t'implore parce que tu es libre. Tous les liens sont brisés. Nous ne sommes pas seulement affranchis dans notre corps plus rapide, dans nos sens plus délicats, dans nos oreilles qui savent entendre et dans nos yeux qui savent voir. Nous le sommes aussi dans nos âmes. Elles sont délivrées des souvenirs, des vanités, des habitudes, des préjugés, des mensonges, de tout l'appareil d'entrave dont le monde les embarrassait. Il me semble que mon âme était étouffée et qu'aujourd'hui elle respire, elle regarde, elle écoute. Quelle ivresse, mon Dieu ! Et il reprenait plus ardemment. « Allons-nous-en, Madeleine, c'est notre bonheur, et nous devons obéir à l'ordre de notre bonheur. Nous n'étions pas heureux autrefois, nous n'étions pas nous. Allons-nous-en vivre selon nous, selon la vie de solitude et de simplicité qui nous convient. Enfonçons-nous davantage dans la nature. Je t'aime tant, de t'aimer dans ce qui est beau. Toute la beauté des choses s'ajoute à ta beauté. Je t'aime parce que les fleurs ont de jolies couleurs et de bons parfums, et que le soleil est radieux, et que les collines sont pleines de grâce. Allons-nous-en, Madeleine !» Elle lui sourit affectueusement. Il défaillit de joie, prêt à pleurer. « Oh, tu veux bien, je le devine. Tu m'as souri, moins en amante qu'en compagne fidèle, avec attendrissement, avec douceur, avec un peu de tristesse et beaucoup de foi. Toute notre vie, Madeleine, ne sera que la suite de ce sourire. » Elle lui passa les bras autour du cou. « Tu n'avais pas besoin de prier, mon Pascal. Quand ils sont partis, j'ai bien senti que nous ne les reverrions plus. C'est pourquoi j'ai eu ce mouvement d'angoisse. Mais je le savais, et je te l'ai dit hier, devant la nuit. Nous serons l'un à l'autre bientôt. Allons-nous-en, mon Pascal. Nous n'avons plus le droit de faire attendre le bonheur. »